Robert Glasper, Cory Henry, Julianne Polak, Anomaly, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être Jacob Collier aussi, dans une certaine mesure. Voilà un peu des noms des artistes qu'on associe plus ou moins à la mouvance néo-soul, néo-soul. Voilà. Alors, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire une petite plongée. On ne va pas, comment dire, regarder in extenso ce style, parce que c'est très riche et très complexe, mais je vous propose d'essayer de dégager quelques clés de style et quelques clés de langage, parce qu'il y a eu déjà beaucoup, beaucoup de vidéos sur la néo-soul. Je sais que ça a beaucoup été traité, j'arrive un peu, entre guillemets, après la bataille. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est que ça fait déjà maintenant plus de au moins 10 ans, c'est pas 15 ans, peut-être même bientôt 20 ans que le pic un peu de la néo-soul est passé, et c'est intéressant de voir ce qu'il en reste. Un peu comme il y a eu les boppers, il y a eu l'époque bop, il y a eu le hard bop, le style en tant que tel demeure, il y a encore des gens qui font du bop, mais c'est aussi intéressant de voir comment les éléments de langage du bop sont passés dans d'autres univers, dans d'autres styles. Et donc, c'est un peu comme ça que je veux le regarder aujourd'hui. C'est évoquer un peu le style dans sa globalité, mais quand même regarder dans le détail, voir ce qui est passé et quels sont les éléments, vraiment, parfois même, vous allez voir, je critiquerai un petit peu à la fin, des tics de langage qui sont associés au mouvement néo-soul. Donc, je vous propose de parler de rythme, d'harmonie, de mélodie, d'ornementation, quelques morceaux. On va regarder deux, trois phrases que j'ai relevées pour toujours partir du concret. Et puis, à la fin, je me permettrai de vous dire mon ressenti par rapport à ça et peut-être pas les limites, c'est un peu méchant, mais la façon dont moi je perçois certaines techniques d'harmonisation. Alors dès qu'on parle d'un style comme ça, évidemment, le problème c'est la définition, parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. D'ailleurs, il y a eu un peu des classements quand on se promène sur Internet ou qu'on va sur les moteurs de recherche. On est renvoyé vers un peu tous les artistes des 40 dernières années qui sont plus ou moins liés à la soul, évidemment, quoi. Alors c'est toujours le problème de cette définition, où on est obligé de mettre des limites, et parfois on est un peu au bord de la caricature et on fait des analyses qui sont un peu symboliques, c'est-à-dire qu'on met un peu des éléments, encore une fois, des éléments de langage ou des artistes qui représentent, mais évidemment, Cory Henry n'est pas que limité à la soul, pareil pour Jacob Collier, pareil, alors peut-être un artiste comme Glasper, peut-être lui est vraiment emblématique, mais en fait on va voir que, ou pareil, Julian Polak, il y a des éléments, on se dit, ah tiens, ou il y a un pianiste qui s'appelle Rob Arrojo, je le prononce à la française, je pense qu'il est brésilien ou portugais. Et voilà, et on sent, c'est ce qui m'intéresse, on verra une phrase aussi, on sent un petit peu des éléments de langage. Alors ils ne font pas que ça, ces artistes, comme Anomaly, il a plein de, comment dire, plein d'éléments de langage, et il a ses compositions, il a son univers, ses procédés, mais quand même, on se dit à un moment, on se dit, ah, il y a quand même une influence, il y a quelque chose, grosso modo, on va le mettre dans la mouvance néo-soul. Alors on va se concentrer, vous avez compris, sur les claviéristes, parce qu'ici c'est piano jazz concept, je laisse les guitaristes, les vocalistes, les batteurs, les bassistes, les rythmiques faire leur job sur leur chaîne respective. Là on va parler d'harmonie et puis plutôt des pianistes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la néo-soul? C'est un style qui est, bon évidemment, là on va commencer par vraiment le plus général, on le met, puisqu'on dit néo-soul, on considère que c'est le renouveau de la soul. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est forcément un mouvement afro-américain? Je ne sais pas. Ça, je rentre pas dans la sociologie, c'est possible. En tout cas, il n'y a pas de limite sociologique à qui s'est emparé de ce style-là, indépendamment de qui l'a créé. Donc c'est pour ça le mouvement, le mot néo-soul peut-être nous piège un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on met dedans. Mais je crois qu'on peut dire, pour élargir tout de suite, que ça vient grandement de la soul. Mais je pense que les influences principales sont aussi le jazz. Ça, on n'y coupe pas, mais aussi le gospel. Voilà pourquoi je parlais peut-être de côté afro-américain, mais c'est pareil, faut pas rester piégé avec ça. Donc le jazz, la soul, le gospel et le blues. Voilà, encore une fois, je pense que tout ça participe, évoque la néo-soul, mais moi je mettrais même le baroque dedans. Qu'est-ce qu'il nous raconte là, le bras? Vous allez comprendre pourquoi. C'est une petite blague, mais il y a quelque chose qui me fait dire, ah, finalement, il y a une tradition baroque là-dedans. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Du point de vue du rythme, ce sont souvent des morceaux groovy. Donc c'est binaire. Quand je dis binaire, j'inclus ce qu'on appelle parfois le trinaire, cette espèce de ternaire dans le binaire. Donc on va, je dis binaire tout simplement. Plutôt médium, plutôt groovy, j'allais dire funky. C'est pas funky, funky, ça renvoie vraiment à un autre univers. C'est vraiment, il y a un côté très laid back, très planant, avec peu d'accords. Alors, en général, on a un ou deux accords par mesure, sauf évidemment quand il y a de la réharmonisation, mais on est plutôt sur cet univers assez posé avec des tempos assez médiums. À propos du son, bien souvent, pour les claviéristes, on entend du Fender Rhodes. Voilà, on entend des pianos électriques. Alors, il y a aussi du piano acoustique, mais c'est vrai qu'on entend très souvent du Fender, quoi. Encore un autre élément de son, les nuances. Pareil, on n'en parle pas souvent des nuances, mais très souvent, ce que j'ai entendu, ce que j'ai relevé, est très souvent mezzo-piano, voire piano. Alors, c'est étonnant de parler de ça, parce que... Enfin bon, si on dit hard rock, c'est vrai que, par exemple, le hard rock est associé tout de suite à une nuance mezzo-forte ou double-forte, pour pas dire triple-forte. Il y a un côté un peu rentre-dedans, quoi. Puis il y a des styles qui sont un petit peu... comment dire, qui ont des variations de nuances. Là, la néo-soul, bien souvent, les arrangements, je vois que c'est très feutré, c'est très ouaté, c'est très soft, très smooth, pardon pour les anglicismes, mais c'est un peu ça, quoi. Et même, ça va jusqu'au choix des instruments, où parfois, on a donc le Fender, qui a quand même un son, à moins qu'il soit, comme on a fait les sons de Fender, un peu LA dans les années 80, ce qu'on appelle les Dino Rhodes, avec un son de Tynes très, très agressif. C'est plutôt un son assez mellow, assez sweet. Et même quand c'est joué au piano, c'est rarement du piano à queue, c'est souvent des pianos droits, dans ce que j'ai relevé, ce que j'ai vu, souvent du piano droit, et même carrément avec la pédale de, comment dire, la sourdine. Vous savez, cette espèce de feutre qui est mis pour étouffer encore plus le son. Voilà, ça, c'est pour l'élément sonore, dans sa globalité. Pareil, pour faire une petite entrée en matière, tout ce qui auréole un petit peu ce style. Encore un mot avant de rentrer dans le détail sur les deux grands axes qui traversent, les deux grands courants qui traversent la néo-soul. C'est surtout les compositions. C'est quand même un univers où il y a beaucoup de compositions. Encore une fois, avec des éléments harmoniques assez économes, on va rentrer dans le détail. Et puis parfois de la réharmonisation, ça se fait aussi pas mal, des standards qui sont réharmonisés. C'est peut-être là où j'ai le plus de critiques à formuler. Du point de vue de l'harmonie maintenant, qu'est-ce qu'on a dans la néo-soul ? Eh bien, on va avoir une prédominance de sonorités plutôt chaudes. Ça va un peu avec le côté sweet, avec le côté piano électrique très groovy. Donc ça va être essentiellement des accords lydiens. Alors attention, là je vais le dire une fois pour toutes. Tout ce que je vais dire, encore une fois, je suis dans ce qu'on pourrait considérer comme une forme de caricature. C'est-à-dire que si derrière vous me dites « mais non, mais pas du tout, il n'y a pas que cet accord-là chez un tel, mais j'ai entendu chez Anomaly des... Bah, » Évidemment, je suis, encore une fois, je l'ai dit une bonne fois pour toutes, ce que je dis là, ce sont des clichés d'analyse pour essayer de dégager des éléments. Mais il est évident que si vous allez chercher chez Collier ou chez Corey-Henry, vous trouverez des exceptions et chacun a son style et ils n'ont pas une sorte d'accord. Mais il n'empêche qu'on retrouve chez tous ces artistes quand même des procédés et des couleurs, à un moment on se dit « Ah tiens, lui aussi le fait, ah tiens, ça évoque. » Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là-dedans, il y a quoi? Il y a ce côté lydien, très chaud, ok? Donc on va avoir des constructions d'accords, comme ça par exemple avec des accords avec une dièse 11, c'est le principe du lydien, ça, je vous apprends rien. Et puis on va avoir aussi l'enchaînement, on va avoir l'utilisation par exemple d'accords mineurs 7, 9, voire mineurs 11. Vous voyez, par exemple, on aurait ces accords mineurs. Comme ça, mineur 11, alors on pourrait avoir du mineur 9, voilà, on pourrait avoir ce type d'accord, par exemple 1, 5, 3, 7, 9, et même, très souvent, on a ce type de construction, les mineurs 11. Alors, la construction, j'avais fait une vidéo un peu rigolote là-dessus sur la construction du mineur 11, faisons un petit point tout de suite de langage. Quand vous voulez construire un mineur 11, il y a deux polycordes à connaître, l'élément inférieur, c'est X mineur, ok, et puis l'élément supérieur, c'est Y majeur, ok? Donc on a une triade X en bas et une triade Y en haut. Celle du bas est mineure, celle du haut est majeure. Et le rapport entre les deux, eh bien, Y est égal à X moins 2. 1, 2. 1, c'est un demi-ton, donc 2, ça veut dire 2 demi-tons, ça veut dire un ton. Ça veut dire qu'on a Fa mineur et au-dessus, on a Mi bémol. Voilà. Et on s'amuse à renverser, comme ça, on joue avec ces deux deux éléments de ce qu'on appelle un polychorde. Okay, et donc, quand on veut transposer, une fois qu'on a compris ça, on se dit, bah, si je veux faire, par exemple, un sol mineur 11, avec ce type de procédé, en retrouvant cette sonorité, bah, je me dis, bah, en bas, j'ai X mineur, et puis Y en haut, X moins 2, c'est-à-dire un ton en dessous de sol, ça fait Fa, Fa majeur. Voilà la construction d'un accord mineur 11. Donc ça, ce sont des sonorités qu'on entend beaucoup, du lydien, des sonorités très chaudes, et puis des sonorités comme ça, mineures, qui vont se succéder. Alors, ce qui est intéressant aussi du point de vue harmonique, c'est qu'il va y avoir, et ça c'est un peu une caractéristique du langage, une juxtaposition des éléments, parfois violente. C'est-à-dire que contrairement à l'harmonie tonale où on va chercher à enchaîner des éléments qui vont être consistants, cohérents au sein d'une tonalité, voyez, avec éventuellement des éléments, des accords de passage par exemple, là on serait cohérent, voilà, mais grosso modo, on va rester dans un cadre tonal où on sent qu'on ne sort pas trop de la tonalité attendue. Bon, une des clés de la néo-soul, et c'est ce qui plaît beaucoup parfois à certains harmonistes, notamment les plus jeunes, ou peut-être, je vais oser le mot, mais vous savez que je suis franco ici, les moins éduqués, eh bien c'est ce côté, justement, cette pétarade de couleurs. Très Jacob Collier, alors je ne mets pas, Jacob Collier c'est un peu un cas d'espèce, parce que c'est, vous savez ce que j'en pense, j'ai une admiration sans bornes pour ce garçon, bien qu'il y a des choses à dire pas du tout, il y a la moitié de son univers que j'ai envie de bazarder, parce que c'est trop Peter Pan, machin, mais c'est le plus doué, il a un talent quand même assez incroyable, il faut prendre les éléments, il faut prendre les gens dans leur complexité, en prendre, en laisser, mais il ne faut pas passer à côté de ça. Et donc, ce côté, justement, juxtaposition, ce côté patchwork de couleurs, lui, c'est emblématique. Collier, c'est ça. C'est-à-dire, il y en a de partout. Sauf que lui a l'intuition du génie. Et cette intuition, c'est qu'il sait aller jusqu'à la limite du mauvais goût ou du bon goût, limite du bon goût avant de tomber dans le mauvais goût. Donc, ces juxtapositions de couleurs, c'est quoi? Eh bien, c'est d'aller chercher des enchaînements de cadences ou d'accords qui sont très éloignés. Alors, parfois, c'est ce qu'on appelle les modulations, les médians chromatiques. C'est une méthode d'analyse américaine, je ne suis pas très friand de ça, mais peut-être que vous connaissez ce terme-là. Ce qui veut dire qu'en gros, ça consiste à aller à la tierce majeure ou mineure dans un sens ou dans l'autre. Alors, quand on a fait de l'harmonie classique ou quand on connaît d'autres formes d'analyse, bon, c'est un petit peu, c'est vite dit parce que ça veut dire qu'on pourrait parler plus simplement d'emprunt majeur ou mineur, mais en gros, pour le faire simple, ça veut dire qu'on pourrait aller de, si je vais par exemple de Fa mineur à Si bémol mineur, ben, je suis pas très éloigné, c'est des accords, le 1 mineur et le 4 mineur, je pourrais les retrouver dans une même tonalité. En revanche, si je fais Fa mineur 11, et La mineur, ah, là, tout d'un coup, j'ai une modulation. J'ai un gros changement de couleur parce que je passe de Fa mineur qui appartient, par exemple, à Mi bémol à La mineur qui appartient à Sol. On les trouve dans d'autres systèmes. Mais donc, on voit bien que on est à une tierce majeure d'écart. Ça crée une grosse rupture. On est dans des tonalités qui sont très éloignées. Les tonalités, vous savez, les plus proches sont les tons voisins, c'est-à-dire à la quarte ou à la quinte, dans un sens ou dans l'autre. Et puis quand on commence ensuite à aller vers des tonalités qui sont au demi-ton, au ton, la tonalité antipode, c'est-à-dire si je vais par exemple de Fa à Si, qui est la tonalité la plus éloignée à la quarte augmentée, alors il faut que je trouve une note commune, là c'est moins évident, enfin je fasse par exemple un... Voilà, là, ça, c'est très éloigné. Et donc, c'est un peu idiosyncrasique, c'est un peu emblématique, cette juxtaposition de couleurs, parfois assez violente. Ça fait partie du charme de la musique. Et ça, on le retrouve beaucoup. Alors, il y a une compo comme ça, pour illustrer, de Robert Glasper, c'est Baby Tonight. Et ça, on a, par exemple, dans ce thème, on a un La mineur 11 qui suit un Fa dièse mineur 11, okay, pour aller vers Fa majeur 9, dièse 11. Ok ? Alors évidemment, là j'ai fait uniquement mineur-mineur, on pourrait s'amuser en fait à garder, c'est un peu une exploration à faire, à garder une note commune supérieure, le top chord, et puis à chercher des accords majeurs ou mineurs qui permettent de faire passer, de conserver, la, comme une pédale au soprano, quoi. Exemple. Après, il faut faire des ouh, eh. Voilà, c'est le look aussi. Et puis, l'attitude est très, très importante. Voilà. Ensuite, le deuxième élément important, ce sont les cadences plagales. Voilà, quand je vous disais qu'il y a une influence gospel, churchy, un peu blues, là, on est au cœur du sujet. Alors, écoutez, par exemple, ce que fait Julian Polak dans ce style-là. Donc on a le mouvement plagal, c'est-à-dire si bémol majeur qui va à fa, et puis on a ces fameux mouvements en sixte, c'est-à-dire on va avoir do qui va à ré fa, qui va à do mi. Okay ? Ça, c'est dans l'idée d'avoir un do 7 et de passer comme ça en sixte. Okay ? Et on aurait ça aussi pour le premier degré. Là, on est en plein vraiment dans les clichés gospel, churchy, blues, c'est encore autre chose. Vraiment, c'est gospel, ça. Et on sent bien que là, ça passe beaucoup avec de l'ornementation. J'en parle juste après. Et donc, on a ces mouvements vraiment en six qui se font beaucoup. Alors, je vous ai fait un petit exercice que vous pourrez travailler. Donc, en gros, l'idée, voilà, c'est d'avoir ce type de position. 1, 5, 3, 1. Par exemple, au début, il faut travailler très simplement. Et puis, et ce sont des petits allers-retours à faire comme ça. Do. Alors ça marche pour un accord de tonique, ça marche aussi pour un accord dominant. C'est-à-dire que ça peut être vraiment, on s'est posé en do et on fait ce petit aller-retour, ce qui revient à faire une cadence plagale. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est comme si on avait do, fa, do, fa, do. Et ici, à minima, on enlève la note centrale, okay, on garde juste le mouvement sixte. Voilà. Et là, on peut, si on est en majeur, on peut remonter d'un cran. Jusque-là, toujours mouvement sixte. Et si on est sur un accord dominante, on peut aussi aller à la septième mineure. Voilà, et ça, pardon. Voilà, ça, c'est très, très gospel, quoi, encore une fois. OK ? Et ça, et la même chose, peut nous faire descendre ici. En partant de la quinte, on peut avoir le mouvement 3, 2, 1, ici, 5, 4, 3. Voilà. Bon, c'est du classique, mais on l'identifie, ok, on connaît ça, on a déjà entendu ça. Vous avez par exemple, et alors, ils n'ont rien inventé, encore une fois, ça vient du gospel, et dans le jazz, vous avez par exemple des phrases célèbres chez Peterson, où vous avez ce type de mouvement. Ok, ça c'est typique, c'est une phrase que j'avais relevée, c'est dans Night Train, je pense, je sais pas si elle est dans ce ton-là, mais... Et bon, voilà, on est en plein... Voilà, mouvement en sixte chez Peterson et chez d'autres. Il y a ça chez Tatum, il y a ça chez... voilà, on voit un petit peu cet univers, quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi le mouvement en triade. Encore autre chose, c'est-à-dire qu'on monte encore d'un cran. Et là, je vous ai sélectionné une vidéo de Corey Henry quand il faisait la démonstration du clavier Keyscape. Il est allé jouer un petit peu dans leur studio. Et en fait, il improvise un petit peu comme ça. Et en quelques minutes, on retrouve beaucoup d'éléments de langage qu'on entend tout le temps chez lui. Et c'est très intéressant parce que précisément, bon, on retrouve encore une fois toute la signature néo-soul. Lui, il est vraiment aussi en plein dedans, quoi, même s'il a d'autres choses. Alors écoutons ça un petit peu une fois. Je n'ai pas tout relevé, mais j'ai pris les quelques mesures qui sont intéressantes. Là, on a un 6-9 renversé sur la quinte. Pardon. On va à la 7e majeure pour aller au 6-13. OK, accorde dominante. Donc, on sent qu'on va faire un 5-1. Et là... Voilà, ça c'est typique, ça il le fait tout le temps. Alors qu'est-ce qu'on a? Ben on a vraiment, ça c'est encore une fois, c'est gospel, c'est très aussi musique d'orgue, j'avais oublié de dire ça, c'est, on retrouve beaucoup, et Corey Henry c'est un très bon organiste, et on voit qu'il a ce jeu digital, sans pédale, très lié, très legato, et ça ce sont des mouvements en triade qu'on retrouve beaucoup. Alors qu'est-ce qui se passe? On est sur un 6-7, et on va avoir... Alors la fondamentale n'est pas jouée, elle est sous-entendue. Donc on va entendre sol dièse mineur, fa dièse mineur, et puis après si majeur, et puis après les triades deviennent sixte. Pour aller vers... Donc on retrouve ce mouvement de tout à l'heure. D'accord ? Alors on peut monter. On a ça. Ok ? C'est la base du mouvement précédent. En sixte, sauf qu'au lieu d'avoir que des sixtes, on ajoute une note pour faire une triade. Alors cette triade, c'est quoi? C'est toujours, pour les accords dominantes, c'est 5 et 6 de la tonique, ou de la fondamentale de l'accord. C'est-à-dire que si je suis sur un 6-7, 5 et 6, c'est fa dièse et sol dièse. Okay, et dans 6-7, fa dièse et mineur, sol dièse et mineur. Okay, si je me mets en do, par exemple, et ben je vais avoir le 5e degré, c'est sol mineur, le 6e degré, la mineur. Et le côté un peu Churchill, bluesy, gospel, c'est jouer avec ces deux triades, avec la triade du 5e et du 6e degré. Ça revient, par rapport à la gamme mère, ça revient à penser 2 et 3 de la gamme mère. S'il y en a qui connaissent bien leur mode et qui vont facilement chercher la gamme mère, si je suis en Do7, bah, ma gamme mère c'est Fa majeur, Sol là c'est 2 et 3 de la gamme mère. Mais si vous voulez penser avec les accords de dominante, ça ne change rien. C'est 5 et 6. Et alors parfois entendu à l'état fondamental, mais beaucoup plus souvent renversé, soit... Position 6, premier renversement ou deuxième renversement. Mais premier renversement, très souvent, vous voyez, comme ça. Donc c'est Sol mineur, La mineur. Si je suis en Si, Sol dièse mineur et Fa dièse mineur. Alors pareil, on a entendu ça, c'est une signature, et vous avez ça par exemple, d'ailleurs c'est dans le même ton. Comment il s'appelle ce thème? Alors il ne le joue pas. Il ne le joue pas exactement comme ça, mais vous avez chez Fagen, c'est dans The Night Fly. D'ailleurs, oui, c'est le même ton. Voilà. Comment s'appelle ça? New Frontier. Introduce me to... Oui, je crois que c'est ça. We got it in the New Frontier. C'est ça, c'est New Frontier. Et cet album, j'en ai parlé déjà. J'ai écouté ça. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a pareil, un 6-7, un 6-13, en fait. Et on retrouve... OK? Et quand il va en Ré 7, ben, c'est quoi? 5 et 6 pour Ré 7, ben, c'est La mineur et Si mineur. Si mineur. Ben, c'est pas toujours joué dans le même ordre. Hein. Ça peut être Si mineur, La mineur ou La mineur, Si mineur. Mais voilà. Ouais. Pareil, pour cette espèce de Fa dièse 7 qui est sous-entendu mais qui est joué comme ça, un peu position variété, ben on retrouve Ré dièse mineur, c'est-à-dire le 6e degré par rapport à Fa dièse. Mais toujours 5 et 6. Voilà la petite astuce qui peut vous aider. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Sub 5, dominante chromatique, et il se pose en mi majeur. Dièse 5. OK. On se repose, on fait une petite virgule musicale sur le Ré dièse diminué 7 qui fonctionne un peu comme un 5. En réalité, on entend C. Okay. Mais je dis ça, c'est-à-dire qu'on va avoir ce Ré dièse qui tout de suite revient à mi mineur, mais bon, on va penser pour l'instant diminué de passage. On ne voit pas trop où ça va, on attend. Okay. Et là, on a pareil, on va avoir... Je ne veux pas aller trop vite. C'est-à-dire, quand je dis que Ré dièse diminué comme un 6-7, c'est au sens Mi, Si, Mi. Okay. Et si je renverse ça, je vais avoir... Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je peux considérer que le premier renversement d'un 6-7 bémol 9 peut être un accord diminué 7. Ça, vous savez, c'est souvent le lien qu'on fait entre les accords diminué 7 et les accords 7 à l'état de premier renversement. Mais ne nous égarons pas trop, ça va être, je ne veux pas vous embrouiller. Okay. Et là, on a pareil encore un autre élément qu'on entend beaucoup chez lui, c'est ça. Il a fait ça beaucoup. Hein. Donc on va au Sol dièse 7, encore la dominante chromatique, pour pour aller au Do dièse mineur. Donc tout ça pour aller du Mi au Sol dièse au Do dièse. En fait, on va au relatif mineur, on fait 1, 5, 2, 6 et 6. Ok, 1, 5, 2, 6, sub 5, 2, 6 et 6. Et entre-temps, on passe par cette espèce de petit, ces triades de passage. Voilà. Là, c'est pareil, c'est comme si on repassait par Fa mineur ou Mi dièse mineur, okay, qui serait bien le sixième degré par rapport à La bémol ou Sol dièse, approché chromatiquement. Okay. Là, une espèce de quinte. Alors on entend, il y a la quinte, il y a le Fa qui traîne un peu, mais on entend surtout ça. Voilà. Pour arriver encore une fois sur ce Sol dièse 13, ok. Parmi les techniques d'harmonisation qu'on entend dans la néo-soul, alors il y en a plein, hein, c'est-à-dire qu'on entend, vous avez vu, il y a du suscap, des dominantes secondaires, des dominantes chromatiques, qu'est-ce que j'avais noté d'autre, des accords de passage, ça il y en a beaucoup, beaucoup d'auto-harmonisation mélodique, ce qu'on appelle mal traduit le mélodie auto-chordale. Il y en a un qui revient beaucoup, ce sont les accords diminués de passage. Ok, alors il y a un pianiste qui fait ça, ils le font tous, hein, Collier le fait. D'ailleurs, ce petit mouvement en triade, comme ça, vous l'entendrez chez Collier. Là, je prends la version de Rob Arojo qui joue How Deep Is Your Love. Et à un moment, il utilise justement cette technique des diminués de passage. Alors, donc ici, je prends juste ce passage pour vous montrer. Donc, on monte, on est ici, et on va aller de Mi bémol mineur à La bémol mineur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce Mi bémol mineur est transformé en Mi bémol 7. D'accord? Et puisqu'on a Mi bémol 7, on peut avoir Mi bémol 7, bémol 9. Okay? C'est-à-dire que Mi bémol mineur devient le 5 de La bémol mineur. Et puisqu'on transforme le Mi bémol mineur en Mi bémol 7, on peut avoir aussi l'extension de 9e mineur. Or, Mi bémol 7, bémol 9, ça revient à dire Mi diminué. Okay? Et quand on a la mélodie qui fait Sol, La, Si, eh bien on va, comment dire, la mélodie va générer, va s'auto-harmoniser et on va avoir une succession d'accords diminués de passage. Donc on va avoir à cet endroit-là... Voilà, avec un petit côté arpégé. Vous voyez le clavier aussi, hein, c'est joué au piano droit, c'est très doux. Voilà. Ça, c'est aussi un élément qu'on retrouve beaucoup dans la néo-soul. Alors, à propos de ce passage, on va rester là-dessus. Il y a un autre élément qui est emblématique, et puis on conclura avec ça, et c'est peut-être le plus emblématique, il me semble. Moi, c'est celui que je trouve qui est assez... Dès que je l'entends, je me dis, ah, ça, c'est vraiment le cliché néo-soul. Eh bien, c'est l'ornementation. Alors... Je vous disais en début de vidéo que ça emprunte au gospel, au monde de l'orgue, au blues un petit peu, mais vraiment surtout la musique liturgique, il y a un côté comme ça, le jazz évidemment, parce qu'on a beaucoup de trafic avec beaucoup d'accords altérés, tout ça, c'est très jazz tout ça. Et l'ornementation, c'est quoi? Eh bien là, l'ornementation, principalement, ce sont ces fameuses acciaccatures. Alors qu'est-ce que c'est qu'une acciaccature? C'est pas une appoggiature. Alors, ça se différencie comment? L'appoggiature, déjà, peut être harmonique, alors que la ciaccature n'est pas harmonique, elle est purement mélodique. Et puis, l'appoggiature, si elle est mélodique, il y a un côté 3, 4, 1. Voilà. 3, 4. Voilà. Oui, ça, c'est vraiment l'appoggiature, celle qui arrive sur le temps, qui dure et qui emmène vers, en général, une note réelle de l'accord. Alors, en classique, ça peut être 9, 8 aussi, hein, ça peut être... Voilà, on peut considérer ça que c'est une appoggiature. L'acciaccature, c'est beaucoup plus bref. Ça peut arriver avant ou parfois ça arrive sur le temps. Et il y a ce côté... Voilà, ça, c'est une acciaccature. Ça s'appelle les grace notes en anglais. Slur notes ou grace notes? Je ne sais plus. C'est-à-dire que vous avez la note normale et puis vous avez la note barrée. Vous voyez, l'acciaccature, ce serait la note barrée. Celle qu'on entend à peine. Alors, vous avez deux grandes familles d'acciaccatures. L'acciaccature chromatique... Et puis l'acciaccature diatonique. Voilà. Donc diatonique, c'est-à-dire qu'on va chercher une note qui est dans la gamme, et puis bah, manifestement, puisqu'on est dans des systèmes naturels, majeurs ou même altérés, bah, bien souvent, ce sera distant d'un ton. Alors parfois, ça pourrait être un demi-ton, mais bien souvent, l'acciaccature diatonique, c'est celle qui va approcher la note par en dessous d'un ton, distante d'un ton. Alors on l'avait tout à l'heure avec Glasper, c'est-à-dire que quand il faisait ça... Voilà, ça, ce travail, C'est vraiment le travail de la tchaccature diatonique. Okay. Et alors, si on prend... Alors, avant de regarder le détail, pourquoi je parlais de ça? C'est parce que ça, en baroque, on connaît très très bien. C'est-à-dire, si vous avez déjà regardé l'art de la fugue, le clavier bien tempéré, ou toutes les œuvres pour clavecin, parce que le clavecin, par définition commune, n'avait pas de sustain, il fallait meubler le temps. D'où les trilles, les mordants, les gruppetto, je sais plus, tout ce qu'on appelle l'ornementation baroque. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis la Renaissance. Et donc, c'est drôle de voir que cette approche et cette ornementation mélodique, finalement, on la retrouve dans ce style-là. Alors, ça semble un petit peu tiré par les cheveux, mais finalement, le fait de prendre une mélodie et de lui ajouter des petits zigouigouis, si on était moins précis, bah, c'est pas nouveau non plus. Mais, attention, ce n'est pas pour minimiser la beauté ou l'intérêt, c'est simplement pour dire qu'encore une fois, il y a une tradition, il y a une filiation. Ok ? Il y a aussi ce qui se fait tout à l'heure, ce qu'on entendait beaucoup avec les... Il y a aussi une transposition au clavier de ce que les guitaristes appellent les bends, c'est-à-dire que ce que nous, on ne peut pas faire en tant que claviériste, c'est-à-dire d'approcher une note par en dessous, de lui donner une espèce de la tordre un petit peu, les bends, quoi. To bend, c'est plier, hein, tordre quelque chose, quoi. Et ben nous, on est obligé d'utiliser ces grace notes. Pour reproduire un petit peu, donner cette impression comme ça de ne pas arriver directement sur la note. Alors, cet arrangement de Rob Arojo sur How Deep Is Your Love, j'ai pris juste le bout là central qui fait. Donc on se pose, on est en sol bémol majeur, il le fait en sol bémol, on est sur le premier degré. Voilà, et ici il va faire 1. 5, 2, 6, 6. Oui, ça c'est pareil, ce sont des trafics harmoniques qu'on connaît, là ils n'ont rien inventé. Mais bien fait, ok? Et ce 5, 2, 6, il est altéré, il est bémol 13, on a une 13e mineure. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir une acciaccature ici au niveau de l'alto. Mais en plus de ça, nouvelle acciaccature qui va revenir deux fois pour approcher le soprane. Vous voyez? Pardon, mineur 11. Voilà, ça. Deuxième élément important dans l'analyse de son arrangement, l'anticipation harmonique. Je ne fais pas tout un cours là-dessus, mais c'est une technique, c'est une des premières techniques d'harmonisation, c'est le décalage du point d'harmonisation. Et il le fait très bien, on fait doucement. Pardon. Il faut bien que je fasse ça. Oui, ta popi popa. Et sur le E, c'est un triolet, mais on va dire E, le E du 4, il met l'accord, et de nouveau, il y a une répétition, et le Si bémol est approché avec une acciaccature sur le premier temps de la mesure suivante. Avec en plus, ça. Voilà, et ça aussi, c'est typique. Là, par contre, ça, c'est typiquement blues. Vous voyez ces éléments? C'est-à-dire qu'on a Mi bémol mineur, et on va utiliser ces petits éléments un peu qui viennent de ce qu'on appelle les blue notes, c'est-à-dire qu'on va faire cette espèce de petite approche, et c'est cette juxtaposition, encore une fois, c'est-à-dire qu'on va approcher, on va faire... Je le fais en do parce que c'est plus lisible. Donc, voilà. Et c'est ça, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir la coexistence à la fois de la tierce majeure, enfin coexistence, la succession, on va entendre successivement tierce majeure et tierce mineure. Et cette alternance, ça c'est très blues, ok? Donc on retrouve cet élément. Donc, les fameux, les accords diminués de passage, de nouveau, c'est-à-dire qu'on était, on se pose dans la bémol mineur, pardon, il le fait ici, sol diminué 7 qui fonctionne encore une fois comme un 5. C'est-à-dire qu'en réalité, on a la bémol, on pourrait avoir mi bémol 7, bémol 9 qui revient à la bémol, et on fait mi bémol 7, mais en fait, on va le renverser sur sol, c'est-à-dire sur la tierce de l'accord. Doucement. Donc encore ce petit mouvement bluesy, ouais, il a son tic aussi de langage aussi. Mais ça fonctionne très bien. Donc il vise la neuvième, vous voyez, on est sur un la bémol mineur. Il vise la neuvième, et puis... Et il redescend, comme si... Voilà, comme si on était sur cette espèce de gamme blues, vous voyez, sur cette pinta. Cette pinta de sol bémol avec l'ajout d'un chromatisme ici. Et on a ici ce... pour aller jusqu'au ré bémol 13 sus 4 et enfin le do 7 bémol 10. Voilà quelques éléments de langage pour comprendre de quoi est faite la néo-soul. Peut-être si vous aimez vous-même ce style et vous avez envie de jouer comme ça, bah, vous avez quelques phrases, vous avez un petit peu des procédés. J'ai fait j'ai pris quelques éléments, j'en ai fait un PDF avec des exercices que vous pouvez retrouver sur les sites, je vous donnerai un lien. La néo-soul, maintenant, pour prendre un petit peu de recul, maintenant qu'on a regardé un petit peu des éléments dans le détail, mes élèves ou les gens qui me connaissent m'entendent pester sur la néo-soul depuis plusieurs années, cette vidéo va beaucoup les faire rire. Alors déjà, avant d'émettre des réserves ou de donner ce que je considère les limites de ce style, enfin mes propres limites, ma perception, ce qui me plaît moins dans ce style, je voulais quand même, déjà j'ai fait un arrangement dans le style, histoire de montrer un petit peu, il faut quand même critiquer ce qu'on connaît un minimum. Analyser quelques phrases et montrer que je m'y suis intéressé. De toute façon, on en entend tout le temps de la néo-soul, donc on ne peut pas ne pas connaître la néo-soul. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vivre avec son temps et qu'il y a des choses qui sont très intéressantes dans la néo-soul. Tous les artistes dont j'ai parlé, je les écoute. J'aime beaucoup Anomaly, j'aime beaucoup Collier, Corey Henry, tout ça. Corey Henry, j'écoute peut-être un petit peu moins. Voilà, Polak, tout ça. Bon, tous ces artistes-là font des carrières magnifiques, ils ont un discours qui est très intéressant, ils jouent avec les sons, les rythmes de leur temps, les harmonies peut-être un petit peu moins. On a vu que c'est pas nouveau, mais c'est pas grave. L'habillage formel a aussi tout son sens. Voilà, donc c'est sympa. C'est intéressant. J'avoue que comme c'est loin de moi et comme moi je ne joue pas comme ça, ce jeu-là ne m'intéresse pas. Ça paraît assez étonnant. Enfin, étonnant, je ne sais pas si c'est étonnant. Enfin, je vous dirai après pourquoi. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Mais comme moi je ne joue pas comme ça, bah, j'ai du plaisir à l'entendre, même si parfois je suis un petit peu critique. J'ai quand même du plaisir à écouter ces artistes-là. Je prends beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est bien fait. Sinon, c'est bien fait. Il n'y a rien de plus à dire. Maintenant, les réserves par rapport à ce style-là, je trouve que... Et d'ailleurs, j'aurais les mêmes réserves pour le baroque ou pour un peu tous les styles, en fait. Alors, la première réserve, c'est peut-être la plus évidente, c'est l'ornementation. C'est-à-dire que ces petits trafics, ces acciaccatures, eh bien, on les entend beaucoup, et parfois... Je les entends un peu, je les remarque comme le nez au milieu de la figure, c'est-à-dire que je sens une espèce de matraquage formel. Voilà. C'est pas méchant ce que je dis, je vous donne mon sentiment. C'est-à-dire que je sens des musiciens, des pianistes principalement, qui ont beaucoup relevé et qui tout de suite envoient des signaux formels qui sont très marqués. Alors c'est pas mal, ça n'est pas un problème. Je dis simplement que je le remarque. Et ça, c'est valable un peu pour tous les styles. Vous me direz, je veux dire, les boppers ont leur tic de langage, les musiciens qui font du blues ont leur tic de langage. C'est idiosyncrasique, ça fait partie du style, c'est chevillé à ce corps-là. Maintenant, parfois, alors peut-être que c'est parce que je l'ai beaucoup entendu ou qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de ce truc-là, je l'entends un peu comme un tic, ces espèces d'acciaccatures systématiques. Je me dis, bon, je l'entends comme une affaîtrie, vous voyez, comme un peu comme une posture. Quand c'est... Bon, parfois ça me dérange pas, et parfois je me dis, ah, bon, ok, on a compris, c'est vraiment blam, 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 blam. Il y a un côté un peu néo-soul, un petit peu beaucoup martelé, quoi. Voilà, c'est une petite réserve ornementale que je fais. Pour le reste, c'est bien fait. Maintenant, la plus grosse... Alors là, j'ai choisi un bon exemple, parce qu'il le fait très très bien, et il a un bon sens de l'harmonie, Rob Arojo. Et je pense que ceux qui ont fait un petit peu du mal à la néo-soul, ce n'est pas les figures de proue, parce que je pense qu'eux le font plutôt bien. Mais je pense que les épigones, je pense que les imitateurs, ceux qui ont voulu singer un petit peu, c'est les Cadors dont on a parlé, qui sont quand même des musiciens d'un sacré talent. Donc il y a beaucoup de vidéos qui pullulent ou des mecs qui jouent à la manière d'eux. Eh bien, je pense qu'ils n'ont pas forcément pris le meilleur ou qu'ils ont pris les raccourcis de la néo-soul. Et d'ailleurs, ce n'est pas que les raccourcis de la néo-soul, c'est les raccourcis de l'harmonie, mais qu'on retrouve mis en forme avec la néo-soul. C'est quoi ces raccourcis? Principalement, et là c'est ma plus grosse critique, ma plus grosse réserve, c'est ce que j'appelle les réharmonisations sauvages. C'est-à-dire que, je vous ai dit en début de vidéo, puis ce sera la conclusion, qu'on pouvait juxtaposer des couleurs, que c'était un petit peu la signature. Collier le fait beaucoup, on a des pétarades comme ça, comme il est habillé en fait, il y a du jaune, du bleu, c'est bon. Et le problème c'est que savoir réharmoniser c'est bien, mais avant de savoir réharmoniser, il faut savoir harmoniser. Voilà. Alors là, peut-être je vous entends penser, mais bah, c'est pas la même chose. Ben non, c'est pas la même chose. Parce que harmoniser, c'est respecter une mélodie, une trame harmonique, donc des fonctions d'accord, ce qu'il fait dans How Deep Is Your Love, enfin, qui est très bien fait, on a toujours les 1, les 5, mais il choisit de faire évoluer la nature des accords, d'utiliser des modes, des renversements et d'avoir des accords de passage. Ça, c'est de l'harmonisation. Et quand c'est très bien fait, tout le monde le fait. Maintenant, quand on arrive au bout de l'harmonisation, quand on n'a plus de solution, bah, on se dit, bah, plutôt que de choisir un renversement, ou plutôt que de mettre des accords de passage, ou plutôt que de mettre un mode, ou plutôt que de mettre une appoggiature, ou... allez, je vais changer l'accord. Voilà. Ça, c'est de la... Et là, je réharmonise. J'ai pas fait... J'ai pris une pomme et j'ai mis à la place une poire. Bon, il faudra faire tout un cours là-dessus. Et c'est une technique, la réharmonisation, qui est à double tranchant. Parce que elle est très puissante, mais on peut se blesser avec. Et on peut blesser les oreilles de ses auditeurs. C'est du mot. C'est-à-dire que c'est un peu... Je sais pas si j'ai déjà employé cette métaphore. C'est une épée. C'est une épée à double tranchant, mais qui est très, très lourde. La réharmonisation, c'est-à-dire que si avant vous avez étudié l'harmonie, vous avez étudié le contrepoint, les conduites de voix, les modes, vous avez compris ce que c'était qu'une dominante secondaire, après une dominante chromatique, après une sous-dominante chromatique, et puis après vous commencez à ajouter, de faire du mineur parallèle, de l'auto-harmonisation, et puis à un moment vous dites, bon allez, j'ai fait tout ça, là je continue de m'ennuyer, il me manque quelque chose, et là vous prenez cette espèce d'énorme épée, et là vous réharmonisez tout, et c'est tellement puissant que le problème c'est que si vous n'avez pas les bras, bah, vous allez vous faire mal, vous allez vous la prendre sur le coin du nez, quoi, cette épée. Donc voilà, le problème de la réharmonisation, c'est que comme ça fait partie du style, quand c'est dans des compositions, bah, ma foi, c'est lié à la composition, quand c'est dans le cadre de réharmonisation, ça m'accroche beaucoup plus les oreilles et je me dis, et là je parle pas de, encore une fois d'ailleurs, l'exemple de Arojo, il est super, mais j'entends bien souvent des mecs qui réharmonisent des hymnes ou des chansons, en se disant, je vais faire un neo-soul arrangement. Et là, il y a un beat, on entend une espèce de truc groovy, du Rhodes. Et là, c'est porte nawak l'harmonie. C'est je te balance des couleurs, ça n'a ni queue ni tête, c'est ni fait ni à faire. Et les mecs sont contents parce qu'ils entendent, ils ont réinventé un morceau en ne respectant plus aucune consigne, plus aucune règle. Bon. Alors ça plaît à certains, l'harmoniste que je suis n'est pas très sensible à ce type de procédé. Voilà pour la néo-soul, style intéressant qu'il faut de toute façon, qu'il est intéressant de connaître et de découvrir, d'essayer. Et peut-être, je pense, le plus intéressant, mais c'est la façon dont j'ai fait ces relevés. C'est comme ça que j'ai travaillé, que j'ai fait mon langage, mon vocabulaire. J'ai relevé des artistes in extenso, j'ai parfois joué des solos de bout en bout, mais j'ai trouvé toujours plus intéressant de prendre des éléments de langage qui me plaisaient et puis de les intégrer. D'ailleurs, vous m'entendez parfois, enfin vous m'entendez, je sais pas, je n'enregistre pas comme ces gars-là, mais disons que je sais que j'ai moi-même repris des éléments un peu gospel ou quoi dans mon jeu, ou des acciacatures pour le coup qui sont chromatiques, mais parce qu'elles viennent pas de la néo-soul, elles viennent encore du cran d'avant, elles viennent du gospel, elles viennent de Peterson, elles viennent de... Voilà, même Bill, hein, le côté Plaga, le côté Churchy, évidemment, j'arrête, j'en parle même pas. On a ça, mais on n'a pas les mêmes, on n'a pas le même habillage formal, on n'a pas les mêmes tics. Donc, tout ça, de toute façon, ça participe de la même tradition. Donc, intéressant, je vous encourage à découvrir ce style, à essayer, voilà. Si vous voulez aller plus loin, et si vous voulez, d'ailleurs, soutenir la chaîne par la même occasion, je vous ai fait, comme je disais tout à l'heure, un petit PDF, où j'ai mis L'arrangement que j'ai fait, je vous le mettrai en fin de vidéo, l'arrangement de Someday My Prince Will Come, version néo-soul. Alors ceux qui me disent « Oh mais on reconnaît pas bien la mélodie », c'est un exercice de style. On l'a tellement entendu, j'allais pas refaire la énième version pour faire une sous-version de Bill Evans ou une sous-version de Claire Fisher. On les connaît toutes, ces versions, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Donc je me suis amusé à faire un peu des accords de passage et reprendre les codes un petit peu pour faire cet arrangement. Donc je vous ai fait un petit PDF avec des exercices. Voilà, les deux, trois phrases que je vous ai jouées là, elles sont dessus, et puis l'arrangement aussi que vous pouvez vous procurer sur le site de Piano Jazz Concept. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris certaines choses. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner, et en attendant, portez-vous bien.